Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'église réformée baptiste de Saint-Jérôme et ça me fait plaisir de vous accueillir pour ce nouvel épisode en compagnie tout d'abord de quelqu'un qui a peut-être une moustache un petit peu plus développée que la mienne, mais je vous assure que ma moustache n'a rien à voir avec la sienne. Bonjour Yannick Etier.
Bonjour, content de te retrouver Pascal.
Ça fait plaisir également. Et notre deuxième invité, c'est le pasteur Jimmy Pereira de l'église de Portail. Bonjour Jimmy.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre pour cet épisode. Je n'ai pas dit Yannick que tu étais pasteur à l'église de l'Espoir de Longueuil, mais voilà, c'est fait. Messieurs, aujourd'hui, on veut parler d'un sujet chaud, un sujet triste. On veut parler de l'aide médicale à mourir. J'ai intitulé l'émission « Le catéchisme de la mort ». Il y a un double sens, parce qu'on est dans une culture de la mort qui enseigne sa doctrine et sa théologie de la mort. Mais on veut présenter un catéchisme de la souffrance et de la mort pour les chrétiens. Donc, on en parlera un peu plus loin dans l'émission. La semaine dernière, je vous ai dit que ça devait être Dan Thornton qui soit présent aussi, mais il a été empêché. Alors, Jimmy prend le relais. Juste comme on préparait cette émission, le journal Info Laurentides, là, qui est notre journal local ici dans les Laurentides, titrait « Engouement pour une conférence sur l'aide médicale à mourir ». Alors, j'ai dit on tombe bien parce qu'il y a de l'engouement en ce moment dans notre société qui semble voir l'aide médicale à mourir comme un moyen d'abréger la souffrance, quelques formes de souffrance physique ou même mentale maintenant. On est préoccupé par cela, donc on veut parler de ce sujet aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, notre sponsor, Publication Chrétienne, vous recommande ce livre de R.C. Sproul, « Surpris par la souffrance ». Il y a un petit clin d'œil à C.S. Lewis, « Surpris par la joie ». Ben, des fois, on peut être surpris par la joie, puis c'est merveilleux. Mais c'est moins merveilleux quand on est surpris par la souffrance, mais il faut être capable d'y faire face. Alors, c'est un livre qui traite du rôle de la douleur et de la mort dans la vie du chrétien, que vous paierez environ 20 $ si vous cliquez sur le lien de Publication Chrétienne dans la description, un livre de 168 pages. Donc, je vous laisse le consulter pour en savoir un peu plus par rapport à cela. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez soutenir Coram Deo. On est à peu près un petit peu en dessous de la moitié de l'objectif pour un soutien mensuel. J'aimerais pouvoir me libérer de beaucoup de travail, de montage et de différentes choses techniques pour lesquelles j'aimerais embaucher quelqu'un pour le faire parce que c'est quand même plusieurs heures par épisode pour faire le travail de post-production. Je fais appel à vous tous, non seulement comme individu, mais les églises peut-être qui aimeraient être partenaires avec Coram Deo, faire un don pour l'année ou un soutien mensuel. On a besoin d'entre 1 000 à 1 300 mensuellement. En ce moment, j'ai un soutien d'environ 500 par les auditeurs et les sponsors, puisqu'il y a un nouveau sponsor que vous allez entendre, que vous avez déjà commencé à entendre depuis quelques semaines avec la faculté Jean Calvin. C'est ça. Donc, voilà, si vous voulez, si le Seigneur vous en dit, vous le met à cœur, bien, laissez-vous aller. Aujourd'hui, sujet qui n'est pas un sujet joyeux, qui n'est pas un sujet gai, même si pour certains, cette aide médicale à mourir est reçue avec engouement. Quelle est la perspective des chrétiens? Pourquoi est-ce que nous, on est les rabat-joie dans ce débat de société et qu'on ne voit pas d'un bon œil de façon générale, là, l'ensemble de cette loi et de cette pratique maintenant dans le domaine médical? Juste là, un résumé, commençant avec Yannick, là, on pourrait faire une émission juste sur ça, tous les arguments, pourquoi les chrétiens s'y opposent, là, mais peut-être nous résumer en quelques phrases, si quelqu'un nous demande pourquoi vous êtes opposé, les chrétiens, à l'aide médicale à mourir.
Plusieurs éléments, mais déjà, je pourrais mentionner le fait que notre vision de l'être humain, notre vision de l'univers n'est pas une vision matérialiste. On ne croit pas qu'on peut résumer le sens de l'univers, l'origine de l'univers, la destinée de l'univers et particulièrement de l'être humain uniquement à son aspect matériel. Et donc, pour nous, notre perspective de nos propres vies, de chaque être humain, c'est une vision vraiment qui repose sur un créateur, une éternité, une vie après la mort. Pour nous, la mort est une transition et demande de s'y préparer avec une perspective éternelle. Donc, déjà, si on tranche là en disant, ben certains auront une vision très matérialiste, dans le sens qu'on est seulement de la matière, mm-hmm. ben, notre perspective est complètement différente. Et là, j'aborde même pas la question du rôle de Dieu comme autorité dans tout ça. Mais déjà, cet élément-là, je pense que c'est un point de départ.
Mm-hmm. Ouais. Ouais, ben voilà, c'est une autre perspective sur la vie et l'existence fondamentalement. Jimmy, d'autres éléments? Pourquoi on est en défaveur de cette approche?
Ben, je pense que toute la notion de créé à l'image et la ressemblance de Dieu, c'est un élément qui est extrêmement important dans la conception du corps. Puis pour les chrétiens, porter atteinte à son propre corps, dans le cas de l'aide médicale à mourir, mais c'est une atteinte à l'image de Dieu. Déjà dans cette optique-là, c'est pour ça que les chrétiens en général sont contre globalement la violence contre l'humain ou ce genre de trucs-là. Et l'aide médicale à mourir, c'est une violence envers soi-même. C'est demander, dans le fond, de mettre fin à sa vie, alors que, premièrement, on est créé à l'image de Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi, il y a cette notion de la souveraineté de Dieu. On croit que Dieu est souverain. Et s'il est réellement souverain, bien, c'est à lui de décider du temps de ma naissance comme du temps de ma mort. Donc, en prenant ou en étant pour l'aide médicale à mourir, on s'enfonce un petit peu plus dans tout cet aspect de la rébellion où on veut prendre la place de Dieu. On veut décider nous-mêmes, finalement. On veut prendre le contrôle de notre propre mort, alors que de toute l'histoire de l'humanité, la mort est toujours arrivée comme un peu une surprise, hein, dans le sens où les gens... Et là, on a cette nouvelle façon de faire, cette nouvelle vision un peu culturelle de dire, ben si je souffre trop, je peux apporter une fin à ma vie. Donc, moi, pour moi, c'est deux concepts qui s'opposent dans le sens où, premièrement, créer à l'image de Dieu ne peut pas apporter atteinte à l'image en tant que telle, et la souveraineté de Dieu aussi. C'est les deux éléments majeurs pourquoi je pense que les chrétiens sont contre l'aide médicale à mourir.
Oui. Ben voilà, ça fait partie de la vision de l'homme moderne, son autonomie. Il veut être son propre Dieu dans cet aspect-là aussi de l'existence. Moralement, tu indiques finalement qu'on porte atteinte à notre propre corps, on s'attaque à l'image de Dieu en s'enlevant la vie, même si on considère qu'on n'a plus de qualité de vie et puis que il ne nous reste plus qu'à attendre la mort, on n'a pas le droit de faire cela d'un point de vue moral. Certains qui ne sont pas des croyants peuvent entendre ça et vont dire, ben oui, c'est vous voulez imposer votre moralité chrétienne sur le reste de la société. Tout à fait, c'est exactement ça. Nous croyons que la moralité vient de quelque part, que c'est quand l'homme commence à imposer ses commandements, c'est une pente douce vers une décadence morale et on s'en va vers des conséquences qui vont se multiplier lorsqu'on ouvre la porte à ça et on commence déjà à en voir de nombreuses, mais on ne peut pas transgresser la loi de Dieu impunément sans que ça ait des effets qui vont se décupler. Alors l'idée, c'est pas simplement de vouloir faire en sorte que tout le monde adhère à l'éthique chrétienne et deviennent des chrétiens, mais que puisque cette éthique, nous croyons qu'elle est normative, qu'elle n'est pas seulement donnée pour les chrétiens, mais qu'elle fait partie de la moralité fondamentale qui tient la société ensemble, eh bien, lorsqu'on s'attaque à ce fondement, il y aura un impact majeur. Et donc, pour des raisons morales, je pense que c'est fondamentalement pourquoi on s'y oppose. En fait, c'est l'aide médicale à mourir, c'est une négation de la souveraineté de Dieu. C'est une redéfinition de l'ordre moral. On est en train de dire que la vie humaine n'est pas sacrée, que c'est à l'homme de déterminer quand est-ce que la vie peut être vécue, qu'est-ce qu'une vie qui mérite de vivre et une vie qui ne mérite pas. Et même si on ne le fait pas sur les autres, de le faire sur soi-même, c'est dans toutes les idéologies meurtrières où on dit cette vie peut vivre, cette vie ne peut pas vivre, comme on a retrouvé dans des pans de l'histoire, c'est un peu cette même idéologie qui sous-tend, où c'est l'homme qui dit qui peut vivre et qui ne doit pas vivre. Donc, la vie qui est digne est celle qui ne l'est pas.
Je pense aussi, Pascal, que pour les chrétiens, c'est drôle, tu sais, la perspective conservatrice ou libérale, progressiste ou conservatrice, on a tendance à se camper plutôt chez les conservateurs. En même temps, l'Évangile a été extrêmement progressiste à plein d'égards dans la reconnaissance de la dignité de tous les êtres humains. Donc, a beaucoup aidé des pans de ce qu'on conçoit comme l'Occident ou la morale occidentale à progresser puis vraiment aller vers un respect de l'autre. C'est ce qui fait que quand j'aborde une question comme celle-là, par exemple, je conçois tout à fait que ceux qui seront en faveur de l'aide médicale à mourir ont eu une réflexion morale sur la question et donc ils peuvent le faire au nom de la compassion. Il y a un raisonnement derrière tout ça qui, selon moi, est faux et dangereux, mais ça demande une conversation qui est ouverte où je veux entendre vraiment tout le raisonnement moral qu'il y a derrière ça. Mais où je voulais en venir avec tout ça, c'est que généralement, les chrétiens, on se campe plutôt du côté conservateur parce que apporter des révolutions morales aussi profondes, aussi rapidement, c'est souvent à courte vue, je crois. Et ça nous conditionne, ça endoctrine une culture, ça développe une culture qui devient extrêmement forte. Et pour nous, on va souvent parler d'une culture de mort qui peut devenir terriblement difficile à renverser. Et si je fais une comparaison qui est peut-être boiteuse, mais je pense à ce qui s'est passé en Chine pour réduire la population chinoise et contraindre le nombre d'enfants. Actuellement, la Chine se retrouve avec un défi complètement opposé, où leur taux de natalité est beaucoup trop faible. Et ça va être extrêmement difficile de convaincre les femmes chinoises à avoir plus d'enfants alors que la classe moyenne est en train d'augmenter. Donc, c'est comme si on fait une expérimentation sociale, sociologique, aux conséquences énormes, et on développe une nouvelle culture, et revenir en arrière, ça sera très, très, très difficile. Donc, à partir du moment où on décide de présenter comme une moralité peut-être même supérieure, de décider de mettre fin à ses jours, assisté par la médecine, hein, tout ça, c'est... Là, la médecine, maintenant, avec vertu, est en train de t'aider à t'enlever la vie. Il y a beaucoup de choses dans ça. Et dans ma perspective, à moi, à tout le moins, c'est à courte vue. Il n'y a pas une réflexion profonde. Et là, ça va, les prochaines générations vont être endoctrinées dans cette vision-là. Et je pense que Francis Schaeffer parlait avec justesse de cette culture de mort qui est en train de se construire en Occident.
Oui. On pose en fait des principes moraux, des observations sur le plan un peu théorique, mais bon, cette législation, elle est plus juste théorique, elle est en marche. Les gens, beaucoup de gens l'adoptent dans la société, le voient comme un progrès, une bonne chose. Maintenant, comme pasteur, qu'est-ce qu'on fait avec ça concrètement? Quel genre d'approche pastorale on doit préconiser. Et j'aimerais, Jimmy, si tu veux nous raconter, tu nous as raconté à Yannick et moi une histoire, un témoignage que j'ai trouvé très puissant et j'aimerais ça que tu le racontes, qui illustre justement quel genre d'approche on devrait avoir comme chrétien, là, au-delà de la théorie, mais quand on veut accompagner des gens qui sont dans un processus vers la mort.
Oui, bien sûr. Moi, justement, dans notre église, il y a une dame assez âgée qui s'est jointe à notre église. Elle n'était pas croyante en tant que telle, puis avec la démarche, elle est devenue croyante, on l'a baptisée. Et quelques mois plus tard, elle est diagnostiquée avec une masse importante cancéreuse, tout ça. Elle se rend à l'hôpital et puis c'est clair que la mort va être la prochaine étape pour elle. Puis tranquillement, il y a de la souffrance, tout ça, et tranquillement, l'aide médicale à mourir lui est proposée. C'est quelque chose qui lui est apporté comme une solution, comme une étape parmi d'autres. Puis, naturellement, moi puis l'équipe pastorale en général, on a discuté avec la dame, on l'a accueillie toujours avec la compassion parce qu'il faut comprendre qu'il y a aussi la souffrance qui est présente, il y a l'inconfort qui est là aussi dans tout ce processus-là. Donc, c'est avec beaucoup de compassion qu'il faut le faire. Puis, on a conseillé la dame et tout ça, on a parlé des Écritures, on a parlé justement de la valeur de l'être humain, de créer à l'image de Dieu, de la souveraineté, bon, tout ça. Puis, la dame a choisi finalement de ne pas le faire. Et c'était la pression était tellement forte que sa famille, qui est non-chrétien, mettait beaucoup de pression, même jusqu'à à nous menacer d'aller devant les médias pour dénoncer ça, comme quoi, tu sais, c'était terrible ce qu'on faisait, parce que eux, c'était au nom de la compassion qu'ils voulaient l'aide médicale à mourir. Et nous, c'était justement aussi au nom de la compassion qu'on disait, c'est pas la bonne option. Deux chocs, de deux visions différentes de cette compassion-là. La dame, naturellement, elle a décidé de ne pas prendre l'aide médicale à mourir. Et Dieu étant Dieu, a intervenu de façon assez miraculeuse parce que la masse s'est réduite. Puis la dame a pu sortir. Elle a pu sortir alors qu'elle était aux soins palliatifs avec pratiquement l'épée de Damoclès en haut de sa tête, comme juste, tu vas mourir, on ne sait pas dans combien de temps. Et là, elle est sortie, elle est revenue à l'église. Et c'est un témoignage puissant parce que il y avait d'un côté une très forte pression sociale et familiale, comme on parle à compassion, tu devrais mettre fin à tes souffrances et à ton inconfort. Et il y avait de l'autre côté le poids biblique qui était présent, qui a amené la personne à dire « c'est peut-être pas la meilleure des options ». Et lorsqu'on fait confiance à Dieu, on a pu voir, dans le cas de cette dame-là, c'est pas un rétablissement complet. T'sais, naturellement, la mort va quand même être une avenue éventuelle, mais pour l'instant, elle est bien. La masse a beaucoup réduit, puis elle est retournée dans l'assemblée, puis elle loue Dieu pour ça.
Ça me fait penser souvent à ces histoires qu'on entend sur l'autre élément de ce qu'on appelle la culture de la mort, là, qui est aux deux bouts de la vie, la naissance et la fin de la vie. Avec l'avortement, souvent des cas où on encourage fortement la mère à se faire avorter parce qu'on se dit, votre enfant a tel problème ou la grossesse. Et puis finalement, quand la mère décide de ne pas le faire, et dans souvent des cas, les choses se placent, l'enfant naît comme il faut. Et puis, donc, on est souvent rapide pour mettre cette option-là parce qu'on est dans un monde qui ne veut pas souffrir et qui considère que l'acte d'empathie, de compassion à faire, c'est de tuer la souffrance, et littéralement. Et on est vraiment devant deux concepts antagonistes de c'est quoi la compassion. Dans un point de vue chrétien, c'est pas qu'il n'y aura pas de croix, qu'il n'y aura pas de souffrance, mais qu'on va, on va soutenir une personne qui doit passer par la mort. On ne va pas l'abandonner là. Mais dans une société de plus en plus individualiste qui parque ses vieux dans des centres où la famille s'implique de moins en moins, où c'est le gouvernement qui devient le filet social, qui devient la famille. Et puis gloire à Dieu là, pour tout le personnel médical qui peut assister, qui peut... Mais on peut comprendre que les gens qui vieillissent seuls n'ont pas nécessairement envie de vivre et envie de vivre vieux et malade. Et à un moment donné, ça devient un fardeau. Nous, il y a peut-être quoi... deux semaines, ben, au moment d'enregistrer, deux semaines, mais ça, au moment où il est sorti de l'émission, là, ça fait un peu plus qu'un mois et demi, où quelqu'un de notre entourage, de ma famille, ma mère travaillait dans un CHSLD, et puis c'est ma sœur qui a pris le relais à la retraite, et puis un des résidents qui était là depuis longtemps, que ma famille a connu, qui était... paraplégique, a demandé l'aide médicale à mourir. Il n'y avait pas d'autres plus de souffrances, mais on a découvert en l'accompagnant qu'il y avait un peu de pression de la famille derrière, des sœurs en particulier, qu'on n'avait jamais vues au centre ou presque, qui s'occupaient plus ou moins, qui sont venues là, lors de la journée fatidique. Donc, c'est... Et les membres du personnel disaient, on ne savait même pas qu'il y avait des sœurs. Et puis, ce qu'on a compris, c'est ça, c'est qu'ils lui disaient, ben, tu n'as plus beaucoup de qualité de vie, pourquoi pas t'en aller sans souffrance. Mais ce n'est pas de la compassion, c'est de la lâcheté. Moi, ça me choque profondément que les gens soient choqués, qu'on incite les gens à vivre, puis qu'on se fasse dire qu'on est les méchants parce qu'on dit aux gens de vivre, alors que la vraie compassion, c'est tu souffres avec, tu es présent, tu soutiens jusqu'au bout. C'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que ça demande du courage, mais que Dieu nous le donne, et j'espère que que je serai à la hauteur de mes convictions, et puis que je flancherai pas au moment où la tentation pourrait être grande de vouloir mourir. Mais la compassion, donc, c'est de soutenir, d'être présent, de donner l'aide. Voilà, c'est pas de mettre à mort quelqu'un, c'est pas de la compassion. Mais est-ce que j'ai quelques envolées?
si tu permets, j'aimerais ça rebondir. Je sais que ça me distrait un peu, mais ça me trouble tellement depuis quelques temps. Je suis allé au cinéma quelques reprises dans les derniers mois. Et puis, on dirait qu'il y a une seule annonce qui revient constamment, c'est quelque chose comme Allo Suicide ou quelque chose comme ça pour les jeunes. Et j'assiste à ces annonces-là, je suis profondément troublé parce que je me dis, OK, on a un message qui dit aux jeunes, attends, si tu as des pensées suicidaires, appelle, il y a des ressources, on va t'aider, il faut vivre. Mais d'un autre côté... on nous communique, écoute, si tu ne peux pas donner un bon contexte de vie à ton enfant, vaut mieux te faire avorter. Et puis, si la vie devient trop difficile, vaut mieux demander l'aide médicale à mourir. Ça va devenir très, très, très difficile de convaincre les gens de vivre lorsqu'on les encourage tellement à mourir. Et tout ça, ça devient extrêmement confus. C'est des phénomènes d'influence de groupe. C'est tout ça en même temps. On le voit, là, tu sais, il y a des remises en question, même Radio Canada a été attaqué sévèrement sur des articles qui sont sortis concernant est-ce que la société se remet un peu en question sur la rapidité à laquelle ils vont prescrire, par exemple.
On a perdu ton audio, Yannick.
Ça va, vous me recevez? Oui,
on te reçoit, tu peux continuer.
OK, parfait. Et donc, on voit qu'il y a un phénomène social, puis là, on remet un peu en question. Et c'est là que je m'en allais tout à l'heure en disant, on développe une culture qui va être tellement difficile à revenir en arrière. Tu vois, lorsqu'on donne tous ces messages-là confus aux jeunes qui sont dans des moments de fragilité, grand-papa, grand-maman, papa, maman devraient peut-être penser à quitter, à demander l'aide médicale à mourir. On aurait pu avoir des petits frères, des petites sœurs, mais bon, ça n'aurait pas été le bon contexte, donc on a décidé de se faire avorter. Mais toi, tu dois vivre. Trouve la force de vivre. C'est difficile d'avoir le courage de vivre. Le courage de vivre, c'est du courage parce que la vie est difficile. Et alors, quel signal on envoie, quel message on donne?
Si je peux me permettre juste surfer rapidement sur ce que tu viens de dire, Yannick, c'est que le reflet de la culture très axée sur la production se reflète jusqu'à dans cette culture de mort-là. Pourquoi on ne veut pas que les jeunes, puis on offre, on dit aux jeunes, non, il faut que tu vives, mais c'est parce qu'ils sont encore productifs. Mais lorsqu'on regarde les gens qui sont avec des difficultés, par exemple nos personnes âgées, où ils ne sont plus productifs, donc, vaudrait mieux peut-être que tu partes. Et il y a toute cette culture sous-jacente qui est présente, puis moi qui me trouble énormément, parce qu'on est dans la pure pensée utilitaire. Si tu es utile pour la société, tu mérites de vivre. Et si tu n'es plus utile parce que tu es quadriplégique, parce que tu as un cancer, parce que tu es une personne âgée, parce que là, bientôt tu as une maladie mentale, ben, tu n'es plus utile pour la société. Donc peut-être vaudrait mieux que tu partes. Et ça me trouble profondément parce qu'on est en train de créer justement une culture qui va être exactement comme tu dis, extrêmement difficile à reculer. Et ça l'envoie un message. Ça l'envoie un message profond à notre jeunesse. Sois utile au péril de ce que tu sois plus. Si t'es plus utile, ben on n'aura plus besoin de toi. Et ça devient une culture extrêmement difficile à vivre, extrêmement difficile pour notre jeunesse aussi à comprendre. Alors que tu l'as dit très bien, la vie c'est difficile, la vie c'est souffrant. Et c'est inconfortable à plusieurs égards. Il y a plein de moments de joie profonde, t'sais, où tu dis waouh, la vie est belle, mais il y a aussi plein de moments de vallées et de tempêtes où tu dis waouh, l'horizon est sombre, ça se passe pas comme je voudrais. Et la différence entre la culture chrétienne et la culture de ce monde, c'est qu'on a un espoir. On regarde au-delà de, on regarde au-delà de la vallée, au-delà de la tempête, et on voit Christ. Puis c'est ça, c'est vers ça qu'on avance. Dans une culture où Christ est enlevé, mais il y a juste les ténèbres, il y a juste la tempête, il y a juste la vallée. À quoi bon persévérer? Et c'est là que je crois qu'on a un message d'espoir à apporter à cette culture-là, qui est à l'opposition. C'est notre vision de la compassion, est une compassion qui est réelle parce que ben on marche avec toi dans l'inconfort, on marche avec toi dans la souffrance, on va t'accompagner. Parce que pour tous ceux qui ont déjà accompagné des gens à l'hôpital, vous savez que c'est pas confortable. Je veux dire, on aimerait mieux ne pas être là. L'hôpital, c'est pas l'endroit le plus fun au monde, mais on y va par compassion, parce qu'on aime les gens, puis parce qu'on sait que Dieu nous demande de les accompagner aussi, en étant main dans la main avec eux, la main sur l'épaule, à prier pour eux, les accompagner, et faire persévérer ce regard-là vers Jésus-Christ. Alors que ben, notre culture d'aujourd'hui a complètement effacé Jésus de toute cette équation-là, et on est dans une culture de mort.
Permettez-moi de prendre un instant pour souligner l'importance cruciale de la formation théologique. Je suis très heureux de collaborer avec la faculté Jean Calvin d'Aix-en-Provence. C'est un établissement reconnu pour son enseignement biblique et théologique de très grande qualité. La faculté Jean Calvin offre une formation pour préparer de futurs pasteurs, mais aussi divers serviteurs en les équipant pour répondre à l'appel de Dieu sur leur vie. Que vous envisagiez le pastorat ou souhaitiez simplement approfondir votre compréhension de la Bible, de la théologie, des langues bibliques et de l'histoire du peuple de Dieu, je vous recommande vivement les programmes de la Faculté Jean Calvin. Ils sont disponibles aussi bien sur le campus dans la magnifique région d'Aix-en-Provence que via la formation à distance, offrant une flexibilité optimale. Si vous voulez en savoir plus, consultez le site facultéjeancalvin.com. Ben, cet utilitarisme dont tu parles, je pense que en fait, l'effet pernicieux à la longue, c'est que l'aide à mourir se transforme en devoir de mourir. Tu as la possibilité, donc si tu n'as plus de raison de vivre, pourquoi est-ce que tu embarrasses le système? Pourquoi est-ce que tu occupes un lit d'hôpital? Pourquoi est-ce que tu persistes à être un fardeau pour ta famille? Il n'y a personne qui le dit comme ça, mais c'est ce qui est impliqué. Je veux dire, c'est pas simplement parce que initialement, c'était donc juste des gens dont la fin de vie était très, très prévisible, des souffrances atroces. Et puis là, ben, on a sans cesse ouvert de plus en plus l'admissibilité à l'aide médicale à mourir. Et tu parlais tantôt, Yannick, de la prévention contre le suicide, mais on vient donc de passer un nouveau jalon dans la législation sur l'aide médicale à mourir, où c'est plus seulement les gens qui ont des souffrances ou des maladies physiques dont la mort est prévisible, mais c'est aussi la santé mentale des gens, donc qui n'auront pas nécessairement de problèmes physiques qui vont les mener à la mort, mais la santé mentale qui les fait souffrir peut être une raison valable pour amener quelqu'un à prendre cette aide médicale à mourir. Je n'ai pas suivi d'extrêmement près le dossier, mais est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu une idée de comment toute cette législation sur l'euthanasie, osons employer le mot, a évolué au fil des dernières années et puis cette dernière étape là, qui vient d'être franchie le 17 mars dernier au Canada? Yannick, est-ce que tu as...
Ben, si je retourne en arrière, je pense que les premières fois où tout ça est apparu dans mon miroir, dans ma lunette arrière, là, puis je me suis dit, OK, on a vraiment une tendance lourde. Ça a commencé avec des meurtres par compassion, où on avait des pères qui avaient un enfant lourdement handicapé, avec une déficience profonde, et quand on a commencé à parler de meurtres par compassion. Et là, pour moi, j'avais une tendance lourde qui commençait à se dessiner. On s'en allait dans une direction. À partir du moment où la notion de mort et de mettre à mort, de s'enlever la vie, est associée avec un geste de compassion, on a une tendance lourde qui s'installe. Au départ, comme tu le disais bien, on parlait de maladies dégénératives graves qui peut-être allaient entraîner une décennie de souffrance ou de quasi-totale incapacité, un peu une espèce d'état végétatif où, bien, moi, j'ai travaillé personnellement avant d'être pasteur, j'étais éducateur spécialisé, j'ai travaillé en centre d'accueil avec des personnes lourdement handicapées, à la fois déficients intellectuels lourds, sévères, mais lourdement handicapées physiques. Et c'est vrai que j'avais des individus devant moi qui semblaient être dans un état quasi-végétatif. Et je comprends que quelqu'un qui est distant par rapport à cette personne-là pourrait voir ça comme un acte de compassion. Maintenant, moi, pour avoir travaillé là, travaillé avec des collègues, on avait une relation avec ces gens-là, une relation de vraiment d'amour où il y avait des soins physiques et ces êtres-là très diminués exprimaient de la reconnaissance, exprimaient des rires, exprimaient des larmes, de la souffrance. On est en relation avec eux sans jamais toujours saisir ce qu'ils peuvent vivre. Mais dès qu'on a induit la notion de compassion dans ces gestes-là, ajoute à ça le fait qu'on devient dans une culture où on est dans l'hyper-compassion même psychologique. Hein? Dès que quelqu'un exprime une souffrance, il doit avoir toute notre attention, toute notre compassion. Ajoute à ça des notions de victimisation. Ça nous rend extraordinairement vulnérables comme société à dire, ben écoute, si tu as essayé assez longtemps de trouver la force intérieure de vivre et que tu ne la trouves pas, peut-être qu'ultimement, la meilleure chose qu'on peut faire pour toi, c'est de t'accorder cette possibilité-là de mourir. Et là, le débat dans notre société va se tourner, malheureusement, va se tourner vers, oui, mais comment on fait pour discerner qu'on n'est pas allé trop vite? Ça va devenir juste ça la question, c'est est-ce qu'on a un bon protocole pour avoir un processus rigoureux? Et tout le débat va aller là. Tout le débat, ça va être est-ce que le protocole est adéquat pour avoir assez de temps pour évaluer si la personne vraiment était consciente du choix qu'elle voulait faire? Et ça devient très, très, très fragile. Donc, pour moi, l'introduction de la notion de compassion dans la mise à mort ou l'assistance au suicide est le début de quelque chose qui va dégringoler complètement parce qu'au nom de la compassion, j'arriverai toujours à un endroit où je vais accorder à un être la possibilité de mourir parce que c'est le ressenti. Hein, la valeur de l'être humain n'est pas à l'extérieur de soi, n'est pas dans sa nature propre, mais dans son ressenti. C'est ça qui devient la base. C'est malheureux parce qu'on a tellement développé des outils de communication qui nous permettent à vraiment être à l'écoute les uns des autres avec plus d'acuité. Tu vois, on apprend à parler puis à s'écouter, mais si tu détaches ça d'un créateur qui donne une valeur à ton être qui est au-delà de ton ressenti peut devenir un outil extraordinairement destructeur parce que il devient central. Ce que je ressens aujourd'hui définit la vérité. Et si tu as suffisamment de capacité d'écoute, tu vas entrer en contact avec mon ressenti, puis là, tu dois te soumettre à ça. Alors qu'on sait que l'être humain vaut plus que ce qu'il ressent immédiatement. Beaucoup plus que ça, parce qu'on peut, on peut aller ailleurs, après on peut construire. En tout cas, c'est un petit peu ma lecture de cette course-là dans notre culture.
Ouais, ben merci, ça nous donne aussi un peu le point de départ avec ce revirement sur la notion de compassion. Et puis, ça vient avec toute cette mouvance qu'on voit en dehors, simplement de la question médicale, mais toute l'identité, le moi qui est au centre, l'émotivité, il y a comme une sorte de fragilité aux individus modernes, là, comment ils se sentent, et puis il ne faut pas... c'est ça, parce que leur ressenti définit beaucoup de choses. C'est vrai que ça impacte également toute la notion de la souffrance et puis comment on veut l'abréger. Est-ce que tu as suivi, Jimmy, cette dernière étape aussi dans la législation par rapport à l'ouverture maintenant des personnes dont la seule souffrance est au niveau mental et non pas une maladie?
Oui, puis c'est quelque chose que j'ai trouvé particulièrement perturbant parce que, encore une fois, je pense que tu l'as dit un petit peu tantôt, ça devient un moyen assez lâche de baisser les bras, en fait. C'est que c'est des personnes qui sont dans des situations de vulnérabilité et leur subjectivité devient un peu le standard de leur vérité. Puis ça, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux parce que on a tous vécu déjà des moments de vulnérabilité où on ne se sentait pas adéquat, ou tu sais, ça allait... Puis si à ce moment-là, on avait eu le pouvoir de mort sur notre propre vie, tu sais, c'est comme on peut pas regarder, comme je disais tout à l'heure, on peut pas regarder aux ténèbres de maintenant sans espoir qu'un jour il va faire soleil. Puis c'est un peu ça avec les gens qui vont souffrir de maladies mentales, c'est qu'on va leur dire, ben tu pourras jamais aller mieux, tu pourras jamais vraiment être t'améliorer, puis si tu sens que là, ben, t'en as assez, ben, on va t'emmener à ça. Puis ça s'applique à plusieurs trucs. Ça s'applique, Yannick, avant l'émission, nous parlait d'un cas, peut-être tu pourrais donner plus de détails, sur une personne qui est autiste et qui a demandé l'aide médicale à mourir. OK, c'est terrible. Quelqu'un qui va être en dépression, une dépression profonde, va pouvoir demander l'aide médicale à mourir. Et la logique, simplement, la pure logique, nous fait dire que c'est une mauvaise idée. La personne, elle n'est pas dans un état pour voir le meilleur. Fait que ça fait aucun sens. Dans ma tête, ça fait aucun sens. Encore une fois, parce qu'on a perverti la compassion. On l'a littéralement perverti. La compassion, c'est pas de baisser les bras puis de donner à la personne ce qu'elle veut. La compassion, c'est de l'aider à surmonter l'épreuve actuelle. Puis c'est un peu le défi. Puis en même temps, on ne sera jamais à l'abri, avec la nouvelle législation, on ne sera jamais à l'abri de l'influence familiale, des pressions de la famille, ou de toutes sortes. Et même, on ne pourra jamais avoir, peu importe le protocole, un protocole demeure un protocole, on n'aura jamais un protocole assez solide pour s'assurer que 100% c'est le choix éclairé de la personne et seulement la personne. Il y a toujours des influences, il y a toujours des pressions, qu'elles viennent de gauche ou de droite. Pour moi, c'est une ouverture à une culture de mort qui baisse les bras sur des gens qui sont en situation de vulnérabilité.
Mmh. Ouais, ben c'est ça. Il y avait des lanceurs d'alerte depuis le début, quand on a commencé à ouvrir le débat en disant que ça allait être un slippery slope. Et puis ils disaient, mais non, on va mettre des barrières, puis on franchira pas telle ligne. Mais bon, on est rendu, on a tout franchi les jalons qu'on disait qu'on ne franchirait pas. En fait, on sent pratiquement qu'il y avait un agenda caché, qui était peut-être pas si caché que ça, mais que c'était l'objectif de se rendre jusque-là. Maintenant, bon, on ne veut pas juste faire nos critiques de la culture, mais on est appelé à jouer un rôle dans le monde, à être la lumière du monde, le sel de la terre. Comment vous voyez un peu notre rôle comme chrétien dans ce qu'on a appelé la culture de la mort?
Je peux y aller. Mais je pense que notre rôle en tant que chrétien, c'est, je pense que le plus important, la première, c'est de vivre à la hauteur de ce qu'on prêche. Tu sais, dans le sens où il faut être en mesure de joindre l'action. Tu sais, je sais que c'est pas toujours agréable d'accompagner des gens dans la souffrance, c'est drainant, c'est difficile émotionnellement et tout ça, mais il faut le faire. Je pense qu'en tant que chrétien, puis tu n'es pas obligé d'être un pasteur pour ça, là, mais d'accompagner les gens qui sont autour de nous, dans nos églises, leur redonner aussi cette dignité-là. C'est pas parce que tu es en dépression que tu as perdu ta dignité, puis tu as perdu ta valeur, puis de marcher avec ces gens-là. Je crois que ça, c'est la première grande étape de tout chrétien. C'est d'aller à la marche et accompagner. Naturellement, je pense que l'enseignement. Enseigner ce que la Bible nous dit sur le sujet, c'est capital parce que Dieu a quelque chose à dire là-dessus. Il a son opinion. Puis c'est vraiment important d'en parler parce que je pense que pendant longtemps, il y avait un peu cette séparation-là. OK, ben, la culture dit ça, mais nous, dans l'Église, on le sait que c'est pas correct. Mais on va pas plus loin que ça, tu sais, de juste dire non. Il faut aussi expliquer pourquoi. Puis la beauté de la valeur humaine. Il faut mettre ça de l'avant, il faut en parler plus, cette beauté-là de la valeur de l'humain dans son intégrité. Je pense que c'est les premières étapes.
Amen. Yannick, quelque chose à ajouter?
Oui, bien, je pense qu'il faut amener cette perspective que l'être humain est éternel, que notre âme est éternelle, qu'on a une dimension Amen. Spirituelle, et qu'en fait, pour nous, mourir, c'est se préparer à vivre. Et donc, cette préparation-là, c'est pas la fin d'une vie, c'est le début d'une vie. Nous désirons que tous les êtres humains viennent avec nous dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu, mais ton départ de cette terre est absolument déterminant sur ton éternité. Et donc, je pense qu'il faut revenir à cette dimension-là. Je crois qu'intuitivement, la majorité des êtres humains croient encore qu'ils ont vraiment une dimension spirituelle, qu'il y a quelque chose de plus grand, qu'on n'est pas simplement animal, disons, que les questions, ne serait-ce que les questions éthiques qu'on se pose par rapport à l'environnement, par rapport à la guerre, par rapport à la violence, par rapport à la protection d'autrui, c'est des questions qui dépassent toute notion animale. Et donc, tout ça parle de notre spiritualité, parle de quelque chose de plus grand, de plus noble. Et donc, d'aller vers les gens puis dire, écoute, ta mort, c'est ta préparation à la vie après la mort. Et décider d'abdiquer à la vie trop tôt, alors que tu entres dans la plus grande partie de ta vie, qui est l'éternité, est-ce que ça ne vaut pas le coup de prendre le temps de lire la Bible, de connaître Jésus-Christ, de connaître Dieu, alors que la plus grande partie de ta vie est de l'autre côté? C'est un grand gamble que tu fais de dire, j'en ai assez de cette vie, je vais l'écourter de quelques jours, de quelques mois, de quelques semaines, de quelques années, et je me lance en croisant les doigts puis en me disant, non, moi, je me convainc qu'il n'y a rien après la mort, et donc tout sera fini, ou s'il y a quelque chose, de toute façon, ce sera mieux qu'ici. Mais nous, on connaît celui qui est revenu de la mort. On fête à Pâques à chaque année, on fête sa résurrection, on souligne sa résurrection. Bien, justement, on veut préparer les gens à entrer dans cette plus grande partie de leur vie qui est l'éternité, à bien le faire avec Jésus-Christ, à leur parler de celui qui a eu le courage de vaincre la mort. Donc, on a un message de vie absolument extraordinaire pour les préparer. Puis dire, écoute, tu sais, je pense à cette dame dont tu nous as parlé, Jimmy, le fait qu'elle a décidé de continuer à vivre alors qu'elle est une jeune chrétienne, on comprend bien, ce sont chaque jour qu'elle passe ici, l'équipe mieux à parler de Christ aux gens autour d'elle, à sa famille, à ceux qu'elle aurait quittés un peu trop tôt et à qui elle n'aurait pas pu parler davantage de Christ. C'est absolument glorieux. Donc, rester ici pour connaître Dieu davantage puis faire connaître Dieu davantage, alors que j'arrive dans un temps de ma vie où, en principe, en vieillissant, j'ai plus de sagesse, je suis capable de communiquer autour de moi, de parler autour de moi. Je pense qu'on a un message extrêmement positif. Puis la grande ironie dans tout ça, c'est que si tu as voyagé un peu sur la Terre, tu sais que là où les gens souffrent plus physiquement, ont plus de difficultés à vivre, souhaitent moins la mort. Et donc, ça parle aussi d'une maladie profonde de notre culture. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment à courte vue. Aller voyager, j'ai eu le privilège d'aller en Haïti avant qu'Haïti se ferme à plusieurs reprises. Ces gens-là ont des vies beaucoup plus difficiles que nous. Et on n'est pas dans les dépressions, puis on n'est pas dans l'aide médicale à mourir. Donc, on vit dans une société qui est malade. On a besoin de dire à cette société, nous sommes malades. Parlons de vie ensemble. Parlons de vie dans une perspective globale. Regardons comment les gens vivent ailleurs, dans des conditions plus difficiles et veulent pourtant vivre. Et apportons-leur ce message de vie que nous avons. Ta mort, c'est ta préparation à la plus grande partie de ta vie. Laisse-moi te parler de la meilleure préparation que tu peux prendre. Celle d'embrasser l'auteur de ta vie qui veut t'accueillir pour l'éternité.
Ouais. Amen à tout ça, les frères. Bon, je retiens que finalement, on est des messagers d'une bonne nouvelle. On porte un message de vie, mais on ne doit pas seulement aimer en parole et avec la langue, en proclamant la bonne nouvelle, mais aussi on doit incarner ce message en vivant cohéremment, donc en aimant nous aussi, en accompagnant ceux qui traversent la vallée de l'ombre de la mort. Donc, comme on pourrait dire, on prêche l'Évangile et on vit l'Évangile. C'est une expression que je n'aime pas d'habitude, là, mais je l'utilise. Je pense que dans ce cas-ci, c'est correct.
On est en train de t'avoir, Pascal.
En terminant, j'aimerais ça, Yannick, que tu nous parles du catéchisme de la mort. Ce n'est pas le nom là, qu'on lui a donné, mais je trouve que ça en jetait, comme disent les Français. Un outil qui peut nous aider justement à développer une juste théologie de la souffrance et de la mort. C'est souvent ce qui fait défaut aux chrétiens, mais certainement aux non-chrétiens.
Oui, c'est en fait une traduction, une belle collaboration que Sola a eue avec Évangile 21 et avec un médecin, donc un médecin pratiquant en Ontario et un pasteur en Ontario, qui nous ont produit un catéchisme avec quelque chose comme 70 questions, si je ne m'abuse. Je ne vais pas vous induire en erreur. 72 questions. Donc, un catéchisme. Hein. Déjà, la formule du catéchisme, c'est super pratique parce qu'on pose des questions et on prend le temps d'y répondre le plus succinctement possible quand c'est approprié avec des références bibliques. Mais un catéchisme sur la mort et la question de la fin de vie. Donc, on couvre vraiment des questions très pratiques. Quelle est la perspective chrétienne de la vie, de la mort, du suicide, de la mort, de l'aide médicale à mourir. C'est extraordinairement pratique. Ça va, pour être très transparent avec vous, il y a plusieurs ans que je n'avais même pas réfléchi avant de prendre connaissance de ce catéchisme-là. Donc, Sola a eu l'autorisation de le traduire, le rendre gratuitement disponible. On le trouve sur Évangile 21, sur sola.org. Et donc, on peut aller chercher tout ça et discuter. La beauté d'un catéchisme, c'est que ça ouvre la conversation. Donc, on peut en discuter en couple, on peut en discuter en église, dans un groupe maison, on peut en discuter avec nos enfants même, puisque c'est très court, il s'agit juste d'aller voir un peu les références bibliques. Mais je pense que c'est essentiel pour nos membres de nos églises de pouvoir être capable d'avoir déjà ces réflexions-là pour eux-mêmes, pour la famille, mais après ça, pour les collègues de travail. Parce que dès que les collègues savent que nous avons la foi, ils vont nous poser des questions sur ça. Et comme on le dit depuis le début de la conversation, puisque toute cette réflexion dans la culture se fait sous l'angle de la compassion, si tu n'as pas réfléchi préalablement, tu es vraiment mal pris. Je veux dire, qui peut être contre la compassion dans notre culture et comme chrétien? Je veux dire, nous sommes la religion de la compassion. Tu vois? Et donc, je pense que bien des chrétiens vont se faire prendre au piège en se disant « ben oui, je veux aimer, je veux avoir compassion, je suis contre la souffrance, tout ça. » Mais il y a beaucoup de méconnaissance. Toute cette question-là dans notre société a été construite pour arriver à une acceptation sociale très forte. C'est bien réfléchi, c'est bien communiqué pour atteindre ses objectifs. Et ça nous demande à nous de faire des réflexions sérieuses. Cet outil-là est vraiment merveilleux parce qu'il est très pratique, très concret. On le lit tranquillement, puis on en discute. C'est en français, c'est en anglais, c'est gratuit.
Jimmy, est-ce que tu as eu l'occasion d'y jeter un œil?
Oui. Puis je crois que c'est un outil qui va être vraiment essentiel pour autant les nouveaux croyants que les croyants plus affermis, parce que ça répond bien aux questions qu'on peut tous se poser. Puis je suis d'accord avec Yannick, il y a même des angles que honnêtement, je n'avais pas pensé. Puis je trouvais extrêmement intéressant de naviguer au travers ce catéchisme-là. C'est un outil à avoir là, dans ses favoris, pas trop loin. Parce que je crois que ce genre de questions-là, on va les recevoir sur une base régulière. Puis, bien que ce soit un outil pour nous qui sommes dans le ministère, dans l'œuvre, c'est un outil incroyable aussi pour tous les croyants. Donc, c'est pour ça qu'il est à la disposition de tous là, sur le site de Sola. Vraiment, avec 72 questions, il touche la question de façon. Pas juste superficiel, c'est assez exhaustif. Donc, je pense que c'est vraiment un outil qui va porter du fruit. Mais il faut le faire connaître. C'est comme toute chose, là. Quand il y a des outils, il faut les faire connaître, puis que le plus grand nombre de gens puissent y avoir accès. Mais c'est vraiment excellent.
Excellent. Merci. En terminant, je vous cite mon propre catéchisme de la mort, le catéchisme d'Heidelberg, avec sa première question, justement, qui traite de la mort, en disant: quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? On avait pris déjà cette question en vox pop, là, en allant demander ça aux gens sur la rue. Ils nous regardaient d'une drôle de manière, là. Il ne s'était jamais posé la question, là, mais quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? C'est que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens corps et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur. Par son sang précieux, il a totalement payé pour tous mes péchés et m'a délivré de toute puissance du diable. Il me garde si bien qu'il ne peut tomber un seul cheveu de ma tête sans la volonté de mon Père qui est dans les cieux, et que toutes choses doivent concourir à mon salut. C'est pourquoi, par son Saint-Esprit, il m'assure la vie éternelle et me rend prêt et disposé à vivre désormais pour lui de tout mon cœur. Alors, quand on a ça, je peux vous assurer qu'on n'a pas besoin de l'aide médicale à mourir pour faire face à la mort. On a une assurance qui est bien meilleure.
Et puis sans prévenir, ça arrive. Ça vient de loin, ça s'est promené de rive en rive. Le rire en coin. Et puis un matin, au réveil, c'est presque rien. Mais c'est là, ça vous émerveille. Oh, des reins, la joie de vivre, la joie de vivre, viens, viens, viens.
Changement de propos, Yannick, je pense, est-ce que je me trompe ou tu vas participer bientôt à la
Ta
conférence
joie
d'Évangile 21?
en effet.
Tu peux nous en dire un mot?
Mais j'aurai le privilège de participer à cette belle conférence, un événement majeur en Europe francophone. Donc, on va être dans Pierre. C'est une occasion pour y avoir déjà participé il y a quelques années, inspirante, où on a vraiment des chrétiens de toutes les générations qui s'y retrouvent. C'est un moment d'arrêt, d'ailleurs, dans un site extraordinaire à l'IBG à Genève, en Suisse. Mais c'est vraiment un moment où on se retrouve. On s'encourage, on s'équipe les uns les autres et nous serons encore une fois là, quelques Québécois qui auront le privilège de participer soit dans des ateliers ou dans la conférence qui suivra sur le counseling biblique avec l'équipe de la Fondation du counseling biblique. Mais c'est vraiment un moment fort, je pense, en Europe francophone, puis un moment, je dirais, fort pour une théologie réformée où on voit bien la centralité de l'Évangile. Oui, ça va être mon privilège de participer comme un des conférenciers. Et je vais aussi tenir un atelier sur la notion de collège d'anciens, de congrégationalisme, comment est-ce qu'on travaille ensemble pour bâtir des églises fortes. et bien fondée dans les Écritures.
Tu nous rappelles la date?
Bonne question, c'est à la fin mai. Ah, ça, c'est question piège-là.
OK. Pascal, bon, allez sur le site.
La plus désorganisée que je connais.
Allez sur le site d'Évangile 21 pour en savoir plus, pour s'inscrire, c'est ça?
Exactement. C'est du 8. En fait, c'est au début du mois de mai, tu vois. Du 8 au 11 mai.
Oh, ben, l'émission sort le 6. Donc, c'est dans 2 jours. Dépêchez-vous.
Ça sera complet. Vous verrez comment nous suivre.
Ouais, ben, est-ce que c'est retransmis sur Internet?
Je ne crois pas que ce soit retransmis en direct.
OK,
mais je pense que les conférences sont tous rendues disponibles par la suite. Ouais.
OK, ouais. Formidable. Eh bien, de mon côté, j'aimerais promouvoir le 25e anniversaire de IRBS, International Reformed Baptist Studies, qui est le séminaire avec lequel je collabore pour la formation d'ouvriers. Donc, nous, on est le volet canadien-français. Et ça sera le 25e anniversaire qui sera célébré au Texas. Alors, ceux qui connaissent un petit peu la famille Renahan, James et Sam, et puis la faculté de cette école, ça va être de grandes festivités sur 3 jours à Mansfield, au Texas. Et j'annonce en primeur qu'on organise un cours en collaboration avec IRBS à Montréal pour février 2025. Tout n'est pas encore signé, donc je le dis un peu par la foi, mais j'ai beaucoup de foi. Ça va être en anglais, cependant, un cours avec le professeur Michael Beck, qui se spécialise dans la théologie de Meredith Klein, mais qui s'intéresse finalement à la question de l'intersection entre Christ et la culture. Donc, ça touche, c'est un peu connexe avec ce qu'on a discuté aujourd'hui. Quel devrait être notre agenda, entre autres, pour la culture et puis notre vision de la société et puis l'éthique, est-ce qu'il faut reprendre l'éthique de la loi de Moïse ou voilà, donc il y a différents points de vue entre la théonomie, la théologie des deux royaumes et Klein qui se situe dans cela. Si ça vous intéresse, ben, restez connectés sur le site de Un héros dans le net où bientôt la publication sera faite. Ça va être dans les locaux de Sembec pendant le mois de février à Montréal. Donc, j'ai bien hâte pour cette occasion. Alors, les gars, j'espère que vous serez des nôtres. Ça serait une belle semaine où on peut discuter de théologie tout en fumant un cigare avec le professeur en fin de journée. Non, ça ne fallait pas dire ça, hein, Yannick. Ça, on garde ça privé. Les gens ne savent pas ce que font les pasteurs dans leur Spurgeon Club. OK, ben alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on reste dans notre thématique d'aujourd'hui. Je reçois Alexandre Saran qui vient de sortir son livre sur Job, mais on va parler d'une théologie de la souffrance. Alors, je le disais, c'est souvent ce qui est déficient, ce qui nous empêche de savoir souffrir, ce qui fait que soit on lève le poing contre Dieu, soit on se rebelle, on fuit dans différentes façons. Et je pense que ça fait une bonne continuité avec le sujet dont on a parlé aujourd'hui, parce que c'est bien beau être contre l'aide médicale à mourir, mais il faut aussi avoir une bonne théologie de la croix, une bonne théologie de la souffrance et une espérance face à la souffrance. Alors, on va aborder toutes ces questions avec Alexandre la semaine prochaine. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à mes deux invités, Yannick Etier et Jimmy Perret. J'espère qu'on pourra se reparler bientôt à Coram Deo.
Merci.
Merci les auditeurs d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine.
Question pour toi. Est-ce que c'est possible que j'inverse la perspective de ma caméra? Quand je me tasse à droite, ça se tasse à gauche. Est-ce que j'ai ce contrôle-là ou je ne l'ai pas?
Attends, je pense que je peux te faire quelque chose. Je ne l'ai jamais fait encore. Là. La plupart de mes invités sont moins
capricieux. Je fais mon difficile, c'est juste que c'est déstabilisant. Quand tu dois sortir, tu veux corriger puis tu continues à aller dans
le désert. Oui, c'est ça. Attends, ici, OK. Sur le guest 1, je mets un effet miroir. C'est ça? Je fais tout ça. Yes, sir. Aha!
Ah.
Veux-tu la même chose?
Merveilleux.
C'est correct. Moi, je suis correct comme ça. C'est bon.
Trop tard.
Trop tard.
Je vais le mettre pour tout le monde comme ça. Vous allez toujours être en miroir, mes invités à cette heure. Grâce à Yannick. Justement, hier, j'enregistrais avec Alexandre Saran, là, puis ça y piquait ici, mais il se grattait ici.
Exactement ça que je voulais éviter. Je voulais pas perdre mon image quand je me gratte.
Ouais, non, c'est vrai que c'est mêlant quand on bouge pas du même bord.
Est-ce que je vois que tu es en train de te friser la moustache vers le haut?
Frère, tu n'as rien à voir avec ce look.
Ben, excellent.
Bon, je ne peux pas le cacher. Non, non, mais j'essaie des nouveaux trucs. J'ai vu un gars, il avait la barbe courte puis une bonne grosse moustache. Je trouvais ça cool. J'ai dit, tiens, je vais essayer ça. Là, en ce moment, elle est comme un peu... il manque des spots dans ma barbe, à blanchir par tâche. J'ai dit, bon, ben, je vais me rabattre sur la moustache. C'est le seul ornement glorieux qui peut me rester, peut-être. La calvitie aussi. Je commence à te ressembler pas mal, là, en fait. T'as 10 ans d'avance sous moi, toi.
Ça doit être ça. Voilà.
Ouais, c'est ça.
Ouais, puis toi, t'es plus jeune, mais t'es plus avancé.
Ouais, c'est ça.
Il y en a qui sont sages plus jeunes. C'est ça qui arrive.
Ouais, c'est ça. En prend combien de café par jour?
C'est des petites cafettes en réalité.
Oui, mais il y a quand même de la caféine, là.
Moi, j'en prends 1, 2, 3, 4, 5, probablement 6 espresso simples.
Good. C'est pas payé. C'est le double de moins. Jimmy, est-ce que je te présente juste comme le du portail ou c'est une filière en particulier?
Non, juste comme pasteur du portail.
Une filière en particulier. Mais bon. Est-ce que Pascal, mes deux fenêtres pose un problème. Est-ce que ben ça serait mieux que je me recule un peu?
On va penser que t'es dans une... Non, non, ça fait céleste, là, tu sais, pour parler de la mort, ouais. Là, c'est parfait.